VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 9 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloulia. Les titres pour commencer, Mondial 2022, les quarts de finalistes à la loupe pour une place dans le dernier carré. Au moins 12 personnes tuées dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés mercredi dans le nord du Burkina Faso. Au Sénégal, la Cour suprême invalide la rebaptisation de certaines rues de Ziguinchor portant des noms de personnalités françaises. En RDC, augmentation inquiétante des cas de choléra dans les camps de déplacés de guerre dans l'est du pays. Iran, tollé et inquiétude dans le monde après la première exécution d'un homme impliqué dans la contestation. Moscou échange la basketteuse américaine Brittany Griner contre un marchand d'armes russe. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. De l'insaisissable Mbappé au foot samba des Brésiliens en passant par la Messi dépendance de l'Argentine, tour d'horizon des forces et quelques faiblesses des huit quarts de finalistes du Mondial 2022, Eric.
Maroc, le vent de l'histoire, équipe la moins impressionnante des huit sur le papier, le Maroc est porté par une quête, devenir la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Sur ses talons contre l'Espagne, la charnière centrale marocaine est désormais sur les rotules, percluse d'incertitudes sur plusieurs joueurs. Suivez ce reportage de Amin Birouk, notre consultant sportif depuis Doha au Qatar.
Récupérer, soigner les bobos et surtout mener une course contre la montre pour permettre aux joueurs blessés de participer au quart de finale historique contre le Portugal. Tels sont les principaux leitmotifs de la délégation marocaine présente à Doha. Le staff technique a préféré laisser au repos les blessés tels les défenseurs Naïf Aguerd, Romain Saïs et Noussel Mazraoui. Ces précautions s'imposent au regard de l'importance de ces trois éléments dans le dispositif tactique de Walid Regragui. Ce dernier affrontera dans quelques heures les médias pour la traditionnelle conférence de presse avant match. Un exercice où le patron des Lions d'Atlas excelle, où il tente souvent avec succès de transcender les supporters marocains présents à Doha. Des inconditionnels des Lions d'Atlas qui mènent en ce moment une course contre la montre à la recherche des billets du match. Leur foi dans ce collectif est sans faille et leur confiance est dopée par les performances de leur équipe nationale. Une sélection qui envisage de crever le plafond de verre des équipes nationales africaines et d'atteindre enfin le dernier carré du Mondial 2022. Un rêve que partagent tous les Marocains de toute classe sociale et de tous les horizons. Un rêve que partage également l'Afrique dans son intégralité. Depuis Doha au Qatar, Amin Birouk pour la VOA Afrique.
Voici les célèbres maillots à damier font durer la partie. Sur ses 7 derniers matchs de phase à élimination directe, la Croatie a disputé 6 fois la prolongation, s'imposant 4 fois, dont 3 fois au tir au but, un exercice où elle ne rate jamais. On a retrouvé le Jogo Bonito du Brésil. Cette équipe du Brésil semble peinte en trompe-l'œil. Certes, elle marque des buts magnifiques, retournés, jongle, reprise de volée, et danse la samba pour les fêter, mais c'est surtout sa défense qui est solide. Tradition orange, fidèle à leur tradition, les Pays-Bas disposent d'un collectif très solide et d'une grande confiance en eux. Le Messi de l'Argentine, le point fort de l'Albicéleste, est évidemment Lionel Messi, génie au rendez-vous qui a enfin marqué son premier but en phase éliminatoire de Coupe du Monde, à sa 5e participation pour décourager l'Australie. La force de frappe de l'Angleterre avec la meilleure attaque du tournoi avec 12 buts. Le danger vient de partout. France, Mbappé s'occupe de tout. Les Bleus misent sur la forme stratosphérique de Kylian Mbappé. Meilleur buteur du tournoi, 5 buts, et déjà la 14e place du classement historique avec 9 buts à seulement 23 ans. L'armada portugaise, difficile de trouver un point faible à la formidable équipe du Portugal qui a désossé la Suisse 6 buts à 1. Elle s'appuie sur la plus belle génération de son histoire. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Proposition de coup de sifflet pour le vendredi 9. Bonjour. Des 4 équipes qui disputent ce soir les 2 premiers quarts de finale de cette Coupe du monde de football. Seuls les Pays-Bas et la Croatie n'ont pas encore gagné ce précieux trophée, d'où la motivation supplémentaire qui devrait habiter ces 2 formations européennes engagées dans un double duel avec des monuments sud-américains, le Brésil et l'Argentine. Si le vice-champion sortant croate cherchera surtout à profiter de son statut d'outsider talentueux pour créer la surprise devant le favori Carioca, par contre, la brillante génération néerlandaise actuelle aura à cœur de se rapprocher du sacre qui fuit ce grand pays de football depuis l'avènement exceptionnel des oranges mécaniques de la légende Johan Cruyff, dont le football total révolutionna tactiquement la pratique de ce sport roi au milieu des années 70, sans pour autant apporter la consécration attendue. Les coéquipiers de Lionel Messi, qui tiennent à lui offrir le seul trophée qui lui manque, auront fort à faire devant ce roi sans couronne, qui rêve de revanche après les finales successivement perdues contre l'Allemagne en 1974 et surtout justement contre l'Argentine en 1978. À lundi.
Les mieux lotis par le calendrier sont les Anglais et les Français qui ont bénéficié de près d'une semaine de repos entre leur 8e de finale et le quart qui les opposera samedi au stade Al Bayt.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, au moins 12 personnes, en grande partie des supplétifs de l'armée, ont été tuées mercredi lors d'une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays, Yacouba Ouédraogo.
Mercredi soir, des individus armés ont mené une attaque contre les populations du Bouala dans la région du centre-nord, tuant au moins 12 personnes, a indiqué à l'AFP un habitant qui précise que les victimes sont presque toutes des volontaires pour la défense de la patrie. Un responsable régional des VDP, sous le couvert de l'anonymat, a confirmé l'attaque, disant que plusieurs terroristes ont été neutralisés après plus de 2 heures de combat. Depuis dimanche, plusieurs attaques ont fait au moins 27 morts. Lundi et mardi, dans la même région, au moins 9 civils sont morts dans l'attaque d'un village et d'un convoi de commerçants. Dimanche, 6 civils, dont 4 enseignants, ont été abattus à Bitou, proche des frontières du Ghana et du Togo. Quelques 90 000 civils se sont inscrits pour rejoindre les VDP, mais les djihadistes ont aussi promis de punir ces supplétifs civils qui secondent l'armée.
Au Sénégal, la Cour suprême a invalidé jeudi la rebaptisation de certaines rues de Ziguinchor, portant des noms de personnalités françaises, décidée par le maire de cette ville du Sud, l'opposant Ousmane Sonko, une décision qui avait été contestée par le préfet. Le point avec Abdourahmane Dia.
La chambre administrative a annulé toutes les délibérations du conseil municipal de Ziguinchor du 17 février 2022, dit la décision de la Cour suprême. Le préfet avait formulé un recours pour contester la légalité de nos délibérations relativement à la rebaptisation des rues. La Cour suprême lui a donné raison, mais nous allons attirer l'attention sur les manquements graves du point de vue de la procédure, a confirmé Abdou Sané, conseiller municipal délégué à Ziguinchor, chargé de l'urbanisme. La rue du Général de Gaulle a été rebaptisée rue de la Paix. L'avenue du capitaine Javelier était devenue avenue du tirailleur africain en hommage aux soldats africains qui ont combattu pour la France. Quelques jours après son installation à la mairie de Ziguinchor, l'opposant Ousmane Sonko avait pris la décision et le conseil municipal de la ville avait expliqué que 6 décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale. Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social. Il dénonce souvent les relations, selon lui, inégales entre la France et ses anciennes colonies africaines.
Au Ghana, le ministre des Finances, Kenneth Oforiatta, a échappé hier à une censure au Parlement après le retrait des législateurs du parti au pouvoir. Il s'était retiré avant le vote sur sa gestion de la crise économique du pays. Le gouvernement du président Nana Akufo-Addo est actuellement sous pression au moment où il négocie jusqu'à 3 milliards de dollars de crédits de renflouement auprès du FMI, dont une équipe est actuellement au Ghana. Le président ghanéen a appelé son peuple à soutenir ses efforts alors que l'inflation a atteint 40% et que la monnaie nationale, le cedi, s'est dévaluée de plus de 50% par rapport au dollar. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le nombre de cas de choléra a augmenté de façon inquiétante au cours des 10 derniers jours dans les camps de déplacés selon Médecins sans frontières. Les détails avec Nani Talani.
Entre le 26 novembre et le 7 décembre, 256 patients ont été admis dans un centre de traitement du choléra géré par MSF à Munigi, entre Goma et les camps de déplacés en territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, selon la coordination humanitaire des Nations Unies. Plus de 177 000 personnes y ont trouvé refuge après avoir fui ces dernières semaines l'avancée de la rébellion du M23. Alors que de fortes averses s'abattent quotidiennement sur Goma, les déplacés vivent entassés dans des huttes faites de branches et de morceaux de bâches, sans douche ni toilette. Tous les ingrédients sont réunis pour une catastrophe sanitaire, alerte Simplice Ngar-One, le responsable de la réponse choléra de MSF à Goma. L'organisation s'indigne d'un manque criant d'assistance alors que les déplacés se trouvent à seulement quelques kilomètres de Goma, dans l'Est congolais.
Tollé à l'étranger, mise en garde d'ONG sur de nouvelles pendaisons imminentes après que l'Iran, pour la première fois jeudi, a exécuté Mohsen Chekari, condamné à mort pour son implication dans le mouvement de contestation consécutif à la mort en détention le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint, selon cette dernière, le code vestimentaire strict imposant aux femmes le port du voile en public. Les États-Unis ont dénoncé une escalade sinistre et affirmé que le pouvoir iranien aurait à rendre des comptes. Mohsen Chekari, un jeune de 23 ans, avait été condamné à mort pour avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire au début des manifestations, à l'issue d'une procédure judiciaire dénoncée comme un procès spectacle par des groupes de défense des droits humains. Le président russe Vladimir Poutine a promis jeudi de poursuivre les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une réplique selon lui à des attaques de Kiev, notamment en Crimée, péninsule annexée dont Moscou a admis la vulnérabilité. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes de miner et piéger intensément les territoires qu'ils abandonnent lors de leur retrait, assurant que le terrorisme des mines figurera parmi les accusations portées contre la Russie. Plus de 1000 salariés du prestigieux quotidien américain New York Times ont commencé une grève jeudi à minuit pour un conflit sur les salaires. C'est une première pour ce grand journal depuis 40 ans, Michel Joseph.
Des journalistes et autres employés du journal new-yorkais ont décidé de cesser le travail pour 24 heures, selon le syndicat de la presse News Guild de New York. L'un des points du contentieux porte sur le refus de la direction du New York Times d'augmenter les salaires dans un contexte de poussée de l'inflation. Plus de 1100 travailleurs ont ainsi cessé le travail, une première en 4 décennies, selon l'organisation syndicale. Ce débrayage ne devrait pas empêcher la parution du quotidien vendredi. Un article paru sur le site du New York Times précise que les employés non syndiqués de la salle de rédaction seront en grande partie responsables de la production des informations. Une porte-parole du journal a indiqué que les négociations salariales n'ont pas échoué et qu'il est décevant que les employés en viennent à des actions extrêmes alors que nous ne sommes pas dans une impasse. La presse écrite américaine, jadis florissante, a souffert comme tous les médias de la pandémie et est aujourd'hui affectée par l'inflation.
Le Congrès américain a adopté hier une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême en la matière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement de la RDC estime que la présence du M23 à Kishishe et à Bambou s'explique par la découverte du niobium, appelé aussi pyrochlore, un des minerais les plus chers au monde qui sert à la fabrication de fusées. Eddy Issango a joint à Kinshasa le ministre de l'Industrie, Julien Paluku.
Toutes les guerres qui sont commises à l'est de la RDC sont des guerres économiques à la recherche des minerais. Hier, c'était le coltan, c'était la cassiterite, c'était l'or. Maintenant, aujourd'hui, la progression de l'armée rwandaise qui a à ses côtés les éléments du M23 vers Kishishe, c'est effectivement parce que c'est là qu'il y a les grands gisements de pyrochlore dans la mine de la Somi Kivu, qui est la société minière du Kivu, de qui c'est dont se disputaient les Allemands et les Russes à l'époque pour l'exploitation du pyrochlore. Et donc, la progression de l'armée rwandaise et du M23 dans les territoires de Rutshuru, c'est pour aller contrôler cette mine-là et contourner vers Kichanga pour atteindre Masisi, aller contrôler la grande mine du coltan parce que le Masisi contient 60% des réserves mondiales du coltan. Voilà l'enjeu réel de la guerre, un non-FDLR ou un tribal qui n'existe pas en République démocratique du Congo. Et je l'ai dit avec conviction parce que j'ai été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et j'ai connu de quoi je parle et pourquoi j'insiste sur ces aspects-là.
Il y a eu massacre la semaine, il y a quelques jours à Kishishe. Quelle est la situation exacte sur place? Est-ce que le M23 a pris le contrôle du lieu ou c'est le gouvernement? Quelle est la situation exacte et quel est le nombre de civils tués parce que le gouvernement accuse plutôt le M23 d'avoir tué des civils là-bas?
Oui, c'est en prenant effectivement le contrôle de Kishishe que les éléments de l'armée rwandaise qui accompagne bien entendu que les quelques éléments du M23 ont commis les massacres dans cette localité de Kishishe, en tuant aujourd'hui le bilan qui est à nos dispositions est de 272 civils tués, dont 17 enfants. Nous avons ces statistiques de la société civile et du comité du Barzan intercommunautaire, qui est une organisation qui réunit toutes les communautés sociologiques vivant en province du Nord Kivu. C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, parce que dans la progression, il y a eu des camps de déplacés qui ont été détruits par la coalition armée rwandaise et M23, et au-delà de la destruction des camps de déplacés, il y a eu maintenant ce massacre dans une église adventiste à Kishishe et dans un hôpital, ce qui est un crime que nous dénonçons et pour lequel nous demandons une enquête internationale pour que finalement tous ces criminels qui ensanglantent la région des Grands Lacs se retrouvent demain à la Cour pénale internationale, étant donné que Bosco Ntaganda qui y est aujourd'hui, il y est non pas pour les faits commis au Nord Kivu, mais pour les faits commis à Ituri en 2002. Mais jamais un criminel du Nord Kivu n'a été amené à la Cour pénale internationale, c'est ce qui justifie ce cycle de violence, parce que les gens se baladent depuis une vingtaine d'années, alors que sur leur tête pèsent les charges lourdes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et même des crimes qui s'orientent vers le génocide, parce que les personnes qui sont tuées le sont par l'appartenance à leur ethnie.
Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Depuis plusieurs mois, la Sierra Leone connaît régulièrement des pénuries de carburant, créant de longues files d'attente dans les stations-service. Cette situation oblige les chauffeurs de taxi ou de tricycle appelés Keke à Freetown à se tourner vers le marché noir pour leur approvisionnement en essence. Ce qui fait craindre de nouveaux troubles sociaux, car en août dernier, au moins 25 personnes ont perdu la vie après des manifestations contre la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Le point avec Nani Talani.
La Sierra Leone connaît une pénurie de carburant persistante, obligeant les chauffeurs de taxi, notamment ceux de Freetown, la capitale, de se tourner de plus en plus vers le marché noir pour leur approvisionnement en essence. Modibo Djebo, chauffeur de taxi tricycle, témoigne.
Si je viens à la station service et qu'il n'y a pas d'essence, j'irai au marché noir. Le Djebo, les gens le vendent en bouteille. Ils le vendent au marché noir pour 30 léons le litre. 30 léons pour un litre au marché noir.
Le gouvernement a fixé le prix officiel du carburant à 21 000 léons le litre en mars, soit près du double de celui de l'année dernière. Mais les longues files d'attente dans les stations-service empêchent souvent les conducteurs d'en acheter. Mohamed Kamara, chauffeur de taxi-moto, en est amer.
Quand nous sommes arrivés, nous pensions acheter de l'essence à 21 lons. Si je veux acheter 5 litres, cela me coûtera 150 lons. Je vais rouler avec ça pour le reste de la journée. Et je dois entretenir le vélo. Je dois payer mon patron 80 lons puisque je loue le vélo. J'achète du carburant 105 lons. Je dois manger et je dois entretenir le vélo, changer l'huile. Je dois faire toutes ces choses. Donc, si nous avons cette crise du carburant, cela nous affecte. Et maintenant, nous ne pouvons pas acheter directement à la station-service. Nous achetons au marché noir pour 30 lons le litre.
Les pénuries de carburant obligent les automobilistes à augmenter le prix des courses pour les passagers. L'inflation affecte donc négativement tous les aspects de l'économie nationale ainsi que le quotidien des Sierra Leonais. C'est ce qu'affirme Mohamed Kouyet, chauffeur de taxi tricycle.
Cela m'affecte beaucoup car si je n'ai pas de carburant, je ne pourrai pas me déplacer d'un endroit à un autre, tu comprends? Si j'ai du carburant, ma famille et moi survivrons. Mais si je n'en ai pas, je ne pourrai pas me déplacer d'un endroit à un autre.
Le recours de plus en plus fréquent des chauffeurs de taxi au marché noir et ses prix exorbitants affectent la vie des Sierra Leonais et font craindre de nouveaux troubles sociaux. En août dernier, au moins 25 personnes sont mortes dans la capitale Freetown lorsque les manifestations contre la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires étaient devenues violentes.
Le géant taïwanais des puces TSMC construit une deuxième usine dans l'état de l'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, soulignant la volonté de l'administration Biden de faire venir dans le pays une plus grande partie de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Mais y a-t-il assez de travailleurs qualifiés pour répondre à la demande? Un reportage de Michel Quinn en Arizona même, où la formation des travailleurs et des étudiants s'intensifie. Le récit est de Lionel Gahima.
La visite du président Biden aux installations de fabrication de puces électroniques en Arizona le 6 décembre souligne le positionnement de cet État du Grand Canyon dans la production des semi-conducteurs aux États-Unis. Avec la construction de l'usine du géant taïwanais des puces au nord de Phoenix, l'expansion d'Intel au sud-est de la ville et l'arrivée des fournisseurs du monde entier, la région crée déjà des milliers de nouveaux emplois. Certains de ces nouveaux employés de TSMC sont recrutés dans des universités américaines et formés à Taïwan. Ici, à l'université communautaire de Mesa, les étudiants sont formés à la conception et à la fabrication des semi-conducteurs. Robert Rogers est un étudiant.
J'ai toujours été un fan de la technologie. Alors j'ai vu l'ouverture et je me suis dit, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant que j'aimerais faire. Alors j'essaye.
Depuis le mois de juin, plus de 300 étudiants ont obtenu leur diplôme, attirant des personnes qui ne seraient pas forcément vues dans la fabrication des puces. Leia Palmer est la directrice de l'université communautaire de Mesa dans l'Arizona.
C'est un nouveau créneau, c'est un travail passionnant, c'est un travail de construction, cela signifie qu'ils ont l'occasion de faire la différence.
Tennessee Jackson a rejoint le programme après avoir travaillé dans les centres d'appel. Elle vient d'être embauchée chez Intel en tant que technicienne en semi-conducteur.
Ce qui m'inspire, c'est la technologie, le fait de savoir que chaque personne en a besoin.
Pour répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur florissant de semi-conducteurs en Arizona, une salle blanche de 3 700 m² a été aménagée à l'Université d'État de l'Arizona. Des étudiants, des entreprises et des jeunes tous y travaillent sur des innovations matérielles. Cela fait partie de l'approche adoptée par l'Arizona pour attirer une partie de 52 milliards de dollars de financement des semi-conducteurs prévus par la nouvelle loi fédérale sur les puces et à la science. Carly Squires est le doyen des écoles d'ingénieurs de l'Université d'État de l'Arizona.
La loi sur les puces électroniques et la science est une occasion unique dans une vie. C'est le moment de développer les capacités, l'infrastructure et l'expertise. Nous ramenons cette capacité aux États-Unis. Il faut avoir une main d'œuvre prête.
Avec 30 000 étudiants en ingénierie, l'Université d'État de l'Arizona est le plus grand collège d'ingénierie du pays et un moteur pour répondre à la demande de la prochaine génération. Kyle Squires, doyen des écoles d'ingénieurs de l'Université d'État d'Arizona.
Cela nécessite un changement d'état d'esprit. Comment tirer parti de la technologie? Comment enseigner d'une manière qui ne vous a pas été enseignée? C'est-à-dire que vous avez des stratégies différentes pour atteindre les étudiants. Et comment faites-vous cela? C'est une conversation constante ici.
Mark Lee, un doctorant d'origine du Kazakhstan, ne sait pas s'il veut travailler dans les entreprises qui s'installent près de l'Université d'État de l'Arizona où il étudie. Il s'intéresse à la recherche de nouveaux matériaux, autres que le silicium pour les puces.
Je veux résoudre des problèmes et je veux créer des technologies qui seront commercialisées très rapidement d'ici quelques années seulement.
C'est le genre de savoir-faire que le décideur juge nécessaire pour les États-Unis.
La star américaine du basketball, Brittany Griner, détenue en Russie depuis 9 mois, a été libérée jeudi dans le cadre d'un échange de prisonniers impliquant le marchand d'armes russe Viktor Bout, emprisonné depuis 10 ans aux États-Unis. L'échange s'est déroulé à l'aéroport d'Abu Dhabi. Brittany Griner a immédiatement pris place à bord d'un avion pour les États-Unis. Un autre Américain détenu en Russie, l'ancien militaire Paul Whelan, n'a pas été inclus, lui, dans l'échange. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Viktor Bout est un Russe qui a financé des mercenaires, des rebelles dans plusieurs pays pour favoriser le gouvernement russe et pour défavoriser les pays de l'OTAN.
Donc, Viktor Bout a été libéré pour obtenir la libération de Brittany Griner. Est-ce que cet échange vous paraît logique?
Ce n'est pas logique du tout. Madame Griner a été arrêtée à la frontière. Elle n'est même pas entrée en Russie. Donc, on n'arrête pas des gens qui sont dans l'immigration et dans la douane. On n'arrête pas des gens comme ça. C'est illégal. Donc, ils ont arrêté Mme Griner pour trouver quelqu'un pour échanger avec M. Bout. Et ils ont réussi.
Mais est-ce que Washington avait d'autres marges de manœuvre pour obtenir Brittany Griner sans toutefois remettre Viktor Bout?
Non, je ne crois pas. Il n'y avait pas de possibilité. Et c'était très important de libérer Mme Griner parce qu'elle était innocente. Elle n'a rien fait, mais elle est très importante dans notre vie culturelle. Donc, c'était un prix à payer et nous avons payé.
La Russie a refusé d'inclure Paul Whelan, l'ancien militaire américain. Est-ce que vous pensez que Washington pourra le faire rentrer? Le président Biden a dit qu'il n'abandonne pas.
Oui, il va continuer à essayer, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, quelle est son marge de manœuvre. Je ne peux pas commenter là-dessus.
Quelles pourraient être les marges de manœuvre?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a de l'argent à payer? Est-ce qu'il y a certaines politiques à changer? Je ne sais pas. Aussi, peut-être dans la guerre en Ukraine, on peut offrir quelque chose. Mais surtout contre les sanctions qui sont appliquées contre la Russie. Il y a toutes sortes de possibilités.
Et le retour de Brittany Griner, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour l'administration Biden?
C'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et je crois que sa popularité va augmenter à cause de ça.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde de Michel Joseph. alors console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.